Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
L'Égypte a été une grande référence politique dans la seconde moitié du XXe siècle, dans un Orient arabe divisé. Quelle fut son évolution ? Ses choix économiques, politiques ont servi de modèle dans le monde arabe. Aujourd'hui, elle apparaît plus à la périphérie des conflits du Moyen-Orient. En 1945, c'était un géant économique pour la région avec 19 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en compte 72. Elle a connu au cours de cette période une industrialisation, une forte croissance urbaine et un développement du tourisme. Elle est également devenue terre d'immigration vers d'autres pays arabes. Elle a surtout été une sorte de laboratoire d'expérience politique et à plusieurs reprises, les crises qu'elle a traversées ont été internationalisées. C'est là la marque du fameux grand jeu qui caractérise l'espace politique du Moyen-Orient qu'Henri Laurence développe dans ses ouvrages. Pour nous faire découvrir cette partie d'histoire de l'Égypte, Canal Académie reçoit aujourd'hui Henri Laurence. Henri Laurence, bonjour et bienvenue au micro de Canal Académie.
Bonjour.
Henri Laurence, vous êtes aujourd'hui professeur au Collège de France. Vous occupez la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Vous connaissez les pays arabes du Proche-Orient pour y avoir séjourné de longues années, de plusieurs mois, que ce soit l'Égypte, la Syrie, le Koweït, pour n'en citer quelques-uns. Et j'ajouterai le Liban avec lequel vous entretenez un lien de cœur tout particulier, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et parmi les plus récents, citons « La question de Palestine » en deux tomes, « L'invention de la Terre Sainte » qui a été publié chez Fayard en 1999, et dont le second tome est sorti en 2002, avec pour titre « Une mission sacrée de civilisation », et puis « Paix et guerre au Moyen-Orient » avec pour sous-titre L'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours. En 2004, vous écrivez L'Orient arabe à l'heure américaine et la même année, vous publiez des recueils d'articles, conférences et communications sous le titre Oriental 1, 2 et 3. Alors effectivement, c'est pour la publication du premier tome des Orientales que vous avez reçu au titre de l'année 2004 le prix Joseph Dutheil de l'Académie des sciences morales et politiques pour ce livre Oriental 1 autour de l'expédition d'Égypte. Et Canal Académie, vous avez d'ailleurs reçu à cette occasion, et j'invite nos auditeurs à télécharger ou écouter cet entretien en vous retrouvant dans l'émission Un jour dans l'histoire. Alors, rentrons avec Henri Laurence dans le sujet du jour sur l'histoire contemporaine de l'Égypte. En 1945, quelle est la situation de l'Égypte ? Est-ce un État fort ?
Fort, certainement pas. D'abord, le pays est théoriquement indépendant, mais on n'arrive pas à préciser à quelle date réelle est son indépendance, puisque c'est une indépendance par état par rapport à une occupation britannique. Il y a eu une première étape en 1922, quand l'Angleterre a annoncé son retrait d'une grande partie du territoire égyptien. Il y a eu un traité en 1937 qui donne à la Grande-Bretagne la disposition d'une énorme base militaire dans la zone du canal de Suez. C'est la plus importante base militaire britannique à l'extérieur de l'Europe. Mmh. Et puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et durant la Seconde Guerre mondiale, l'Égypte a été un champ de bataille. Et donc, par centaines de milliers, les soldats de l'Empire britannique ont traversé le sol égyptien. C'est donc un pays qui voudrait réellement accéder à l'indépendance au nom de deux grandes revendications majeures. L'évacuation totale, définitive, des Britanniques, et d'autre part, l'intégration du Soudan à l'Égypte. Parce que juridiquement, depuis 1899, le Soudan est un condominium entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. Donc, il y a le thème de l'unité de la vallée du Nil, c'est-à-dire la fusion du Soudan et de l'Égypte. Donc, c'est un pays qui cherche son indépendance et qui, en même temps, entre dans un cycle de crise politique. Vous avez une monarchie constitutionnelle avec un roi qui est fort actif, le fameux roi Farouk, qui est très jeune, en réalité, et qui essaye de construire un pouvoir fort et autoritaire à son propre intérêt. Vous avez un certain nombre de partis politiques qui sont maintenant devenus des partis politiques traditionnels, puisqu'ils sont entrés dans le jeu parlementaire depuis une vingtaine d'années. Et puis, vous avez de nouvelles forces politiques qui émergent à la périphérie du jeu, mais qui ont pesé de plus en plus. Alors, évidemment, vous avez d'une part des forces de gauche, en particulier communistes, qui en voie de formation et qui ont un certain impact dans la jeunesse. Et puis, vous avez de l'autre côté le mouvement des frères musulmans, mouvement non parlementaire, mais dont le poids dans la société est extrêmement important.
En 1945, toujours, la monarchie égyptienne joue-t-elle un rôle régional sur la scène du Moyen-Orient? Elle est très active.
Elle est active, mais en même temps, elle est un rôle négatif. Si vous voulez, c'est le problème du positionnement de l'Égypte par rapport au nationalisme arabe. L'Égypte ne faisait pas partie de la constellation politique du nationalisme arabe, d'abord parce qu'il existait un nationalisme égyptien depuis le 19e siècle, et d'autre part, en Égypte occupée par les Britanniques, la révolte arabe de la Première Guerre mondiale a été considérée comme une trahison, puisque cette révolte était en alliance avec la Grande-Bretagne. Et donc l'Égypte est passée très lentement, et il y a des étudiants palestiniens dans les universités égyptienne, mais il n'est pas question que les Palestiniens deviennent une composante de la population égyptienne.
Quelle est la nature du contentieux israélo-arabe d'un point de vue géographique à ce moment-là aussi sur...
Vous avez plusieurs choses. Vous avez les légitimités pour les Arabes de l'État d'Israël, dans la mesure même où il s'est fait sur une terre arabe et il s'est construit sur l'expulsion des populations arabes. Donc ça, c'est une position d'ordre général. En dehors de cela, vous avez une série de contentieux liés à l'application de ce qu'on appelle l'armistice de Rhodes de 1949. Ces contentieux sont triples, en gros. L'Égypte considère qu'Israël occupe indûment le Negev, le désert du Negev, parce que cette occupation a eu lieu après l'armistice de Rhodes, et pas avant. Donc, si Israël est de façon indue dans le Negev, Israël n'a pas le droit d'avoir accès à la mer Rouge à Eilat. Donc, l'Égypte bloque, au niveau de Charm el-Cher, l'accès du golfe d'Aqaba à la mer Rouge par des positions d'artillerie. Donc, c'est le second contentieux. Et puis, troisième contentieux, il dit que l'armistice ne fait qu'interdire les opérations militaires, mais ne met pas fin à l'état de guerre.
Donc il y a des incidents continuels.
Et surtout, l'Égypte interdit la circulation de navires ou de marchandises à destination d'Israël par le canal de Suez, en disant que la sécurité des villes du canal sont en jeu, puisque une puissance qui est en guerre avec l'Égypte ne peut pas circuler à l'intérieur d'une des grandes artères égyptiennes.
Un contentieux qui va durer longtemps.
Jusqu'au traité de Camp David.
Voilà. Alors, en 1952, cette soif d'indépendance dont on a parlé tout à l'heure est toujours aussi grande en Égypte et des officiers s'emparent du pouvoir. Qui sont ces officiers et quel est leur programme politique à cette époque-là? C'est le temps des révolutions qui touchent d'ailleurs d'autres pays arabes voisins. Mais quelle est cette nouvelle génération politique?
Les officiers libres sont en ensemble des gens très jeunes. Enfin, ils ont entre 30 et 40 ans.
Mais ils sont représentants aussi de l'évolution de la société égyptienne.
Moins qu'on ne l'ait dit. À l'époque, on avait été, on disait que c'était des couches moyennes, ce qui est vrai pour l'ensemble, mais ce n'est pas non plus des gens d'origine prolétarienne. D'abord, de toute façon, pour être officier, il faut avoir au minimum avoir fait des études secondaires avant d'entrer
dans les académies militaires.
Donc il y a quand même un certain...
Catégorie éduquée.
Éduquée, niveau social, un peu de capital familial et autres. Ce sont des gens qui sont à la fois à la recherche du pouvoir, à la recherche de leur propre identité, et en cela, ils participent au mouvement intellectuel et moral de la société égyptienne. Quand on regarde les évolutions des uns et des autres, on voit très bien que dans leurs années de formation intellectuelle, un certain nombre d'entre eux ont hésité entre les communistes ou les frères musulmans.
Oui.
Et ils ont pu être ultérieurement dans l'un ou dans l'autre, pas comme compagnons de route de l'un ou de l'autre mouvement. Donc on voit qu'ils étaient plus en train de se chercher. Alors le régime lui-même, au départ, s'annonce comme un régime de réforme.
Oui.
Réforme morale, liquidation de la corruption, liquidation du féodalisme, un régime vécu. Et très rapidement, avec l'ascension au pouvoir de l'homme fort qu'est Gamal Abdel Nasser, le mouvement se durcit,
se radicalise
et se construit sa vraie idéologie à partir, disons, de 1954. Alors le programme qui restera jusqu'au bout, même si ensuite il se socialisera un peu plus dans les années 60,
oui,
c'est l'idée d'une démocratie, entre guillemets, saine et coopérativiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les officiers libres refusent le pluralisme.
Le pluralisme politique
parce que le pluralisme, la démocratie plurielle, est contraire au principe de l'unité de la société. Ce qui, une vieille idée musulmane par ailleurs, les frères musulmans avaient des doctrines assez proches sur ces points. Donc interdiction du pluralisme, représentation en théorie de l'ensemble de la société dans le parti unique,
oui,
et constitution d'un état de développement économique, réforme modernisatrice pour l'ensemble du pays.
À ce moment-là, Nasser n'est pas vraiment un homme populaire, pas encore.
Oh, sa popularité commence à se créer par étapes successives. D'abord la monarchie, personne ne la regrette vraiment.
Mmh.
À partir de 1955, il commence à établir sa propre base populaire, au sens où c'était jusque-là un homme de l'ombre, un comploteur. Il se découvre ce qu'on appelle, à défaut d'autre chose, un don charismatique de s'adresser aux masses populaires. Il se construit une espèce de pacte entre lui et les masses, surtout à partir de la nationalisation de la Compagnie universelle du canal de Suez en juillet 1956.
Alors on va reparler de ça, mais on va d'abord marquer une courte pause et vous retrouver dans quelques instants. Nous retrouvons Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, pour nous parler de l'Égypte et du charisme de Nasser dans les années 50.
Oui, alors ce qui fait la force de Nasser, d'abord il parle en égyptien aux Égyptiens. D'un côté, c'est un appel à la dignité. Homme, lève-toi. En ce sens, à la fois l'indépendance nationale, la libération par rapport à la domination impérialiste européenne et la réforme sociale donnent ce sentiment de dignité à des masses qui se sentaient refoulées, méprisées. Donc ça, c'est toute la force du nassérisme, c'est cet appel à la dignité. Mais bien évidemment, il y a une face noire du nassérisme qui est un régime autoritaire, policier, et qui, dans les années 60, deviendra toujours plus autoritaire et répressif, complot, arrestation, même s'il est très peu sanglant en soi. Je veux dire, bon, la répression nassérienne fait des victimes, tue des personnes. Mais enfin, ça n'atteint pas ce qu'on a
c'est
pu
pas des
avoir,
massacres.
Des massacres comme on a pu avoir dans d'autres pays de la région. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les gens qui ont connu cette génération sont extrêmement ambivalents en Égypte. D'un côté, ils vous disent, il y a eu de grandes choses sous Nasser, mais de l'autre côté, c'était une dictature. Et les mêmes gens vous le diront alternativement. Donc c'est l'ambiguïté nassérienne. Mais en même temps, il y a bien cette idée qu'à l'époque nassérienne, le peuple avait retrouvé une certaine dignité.
Dignité que Nasser va encore augmenter au moment où il revient de la conférence de Mangdoum. Enfin, il est à l'initiative de cette conférence et du mouvement des non-alignés. Et ça aussi, ça va contribuer à asseoir sa légitimité.
Mais faut comprendre l'expérience psychologique. Je crois qu'elle est indispensable. C'est un pays qui a été dominé par l'étranger pendant environ près de 80 ans, disons, pour simplifier les choses, 1882, au début des années 50. Et non seulement ces officiers libres libèrent le pays, en 1956, c'est le départ des troupes britanniques, un peu plus tard, c'est la crise de Suez, la liquidation des intérêts étrangers dans le pays, mais non seulement c'est une libération nationale, mais on a le sentiment qu'on est associé à la gestion des affaires du monde. Nasser est un des chefs du mouvement des Afro-Asiatiques. Il parle, en apparence en tout cas, d'égal à égal avec les plus grands de ce monde. Il est courtisé par Washington, par Moscou. Il rencontre Eisenhower, il rencontre Khrouchtchev, il entretient une correspondance avec Kennedy. Vous voyez,
il est l'égal des grands.
Il est l'égal des grands, mais en même temps, son pays est devenu l'égal des grands. C'est aussi une restauration de la dignité égyptienne. L'Égypte joue un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Évidemment, ce qu'il fait dans la pratique est un peu différent. Je veux dire que dans la pratique, ce rôle de premier plan existe.
Oui.
Mais c'est parce que l'Égypte est un enjeu. C'est un enjeu dans la guerre froide.
Oui.
Et donc les deux grands blocs courtisent l'Égypte. Pour l'Union
et les autres États arabes de la région aussi.
Donc c'est pour ça que l'Égypte est importante. Le problème, c'est que l'Égypte a l'impression à ce moment-là d'être un acteur, pas seulement d'être un enjeu.
À ce moment-là, quand même, Nasser est à la recherche d'armes politiques, d'armement de l'Égypte.
Alors oui, l'armement. L'armement est lié au conflit israélo-arabe, est lié au poids des forces politiques
régionales. Mais ça va
régionales.
Déclencher en cascade la grande crise de Suez de 56.
Enfin, il y a multiples causes pour la crise
là,
de Suez, mais dans les grands faits
d'armes... Mais dans l'histoire de l'Égypte, c'est un moment important.
Dans les grands faits d'armes égyptiens, enfin de l'époque, dans le discours nassérien, la fin du monopole de l'armement, c'est-à-dire du monopole occidental de l'armement sur l'Égypte et sur le Moyen-Orient, considéré comme l'un des grands exploits, une des grandes victoires du nassérisme. Mais ils sont bloqués, ils sont obligés d'acheter ce qu'on leur donne.
Ce qu'on leur propose.
On produit finalement des produits de médiocre qualité, à des coûts bien supérieurs au marché mondial.
Alors, si bien que donc, le libéralisme économique n'a pas vraiment bien pris forme.
Là, on n'est plus, on est dans une variante socialiste. Au-delà, si vous voulez, c'est l'inconvénient. La taille des marchés n'est pas suffisante. Et dans ce cas, vous produisez des voitures, vous produisez des biscuits, etc. Vous les produisez 3 ou 4 fois plus cher que le marché mondial pour
donc
une qualité
qui
est en dessous de celle du marché mondial. Autrement dit, vous produisez des rentes au profit de l'État ou des propriétaires des industries, mais non pas au profit de la société dans sa globalité.
Dans ces années 60 aussi, l'Égypte fait une tentative d'une nouvelle expérience politique avec la République arabe unie. C'est une association seulement formelle, mais est-ce que ça a généré quand même une référence et un modèle aussi dans
disons que ça a accéléré la voie vers la socialisation. Bon, l'épisode de la République arabe unie est complexe.
En quoi consiste cette expérience?
Ça a été une quasi-fusion entre la Syrie et l'Égypte, mais qui en Syrie a été ressentie comme une égyptianisation de la Syrie et non pas comme une arabisation de l'Égypte.
Et l'arabisme était mis en avant.
Et d'autre part, ils n'avaient pas les moyens d'une telle politique. C'est là où on retrouve l'échec global du nationalisme arabe à chaque fois qu'il y a une tentative unitaire. L'unité ne peut se faire, on le voit très bien dans le cadre des discussions sur l'unité européenne, que par le biais d'une démocratie pluraliste. Or, Nasser monopolisant le pouvoir, les Syriens ont senti rapidement qu'ils étaient dépossédés de leur propre pays. Alors ils ont dit l'Égypte, ils ont dit Nasser.
Ça servait plus l'Égypte que
Mais indépendamment, je veux dire, si vous êtes dans un système qui n'est pas pluraliste, Aucune entreprise unitaire ne peut se faire parce que toutes les dissidences ne peuvent pas s'exprimer. Il n'y a pas de consultation périodique. Enfin, quand Nasser fait des consultations, il a 99,999% des voix pour lui.
Alors, nous allons marquer une courte pause et vous retrouver dans quelques instants. Nous retrouvons Henri Laurence pour nous parler de la fin du nassérisme dans les années 67-70 et qui se solde aussi par la mort du grand nationaliste arabe en 70.
Donc il y a la guerre des six jours ou guerre de juin et multiples causes à cette guerre qui à mon avis est liée au moins superficiellement à des erreurs de calcul d'à peu près tous les acteurs régionaux. Mais ça, c'est un autre thème qui est le problème de l'erreur de calcul, en anglais miscalculation, qui est un grand thème pour comprendre l'histoire contemporaine du Moyen-Orient jusqu'à cet été et au-delà. Mais en dehors de cela, donc, l'Égypte est maintenant en guerre permanente, l'ennemi sur le canal de Suez. Très rapidement, il y a un effort considérable qui est mis sur place pour préparer la libération du sol occupé. Et dès la fin de 67, on entre dans un cycle de combats qu'on appelle la guerre d'usure, qui se traduit par des lourdes pertes égyptiennes, mais en même temps par la restructuration de l'armée qui redevient une armée beaucoup plus puissante qu'elle était en 1967. Et ça, les Israéliens ne l'ont pas vu.
Ne l'ont pas anticipé.
Et donc, en 1970, dans un contexte qui pose le problème de la relation entre le nationalisme arabe, la paix avec Israël, le sort des Palestiniens, ce qu'on appelle Septembre Noir, Nasser meurt, il meurt d'épuisement. C'était un bourreau de travail, c'était quelqu'un qui avait un contrôle bureaucratique du pouvoir, c'est-à-dire qu'il regardait tous les dossiers, vérifiait toutes les nominations, etc. Donc c'était quelqu'un qui devait travailler 16 ou 17 heures par jour et s'organise physiquement.
Il était malade aussi,
il avait un diabète. Et
après 67, ça a été très difficile.
Ses médecins lui ont prévenu à de très nombreuses reprises qu'il fallait qu'il freine, mais il ne pouvait pas pour la politique. Et donc il meurt et Anwar al-Sadat, entre guillemets, lui succède un peu par hasard parce qu'il était le premier vice-président de la République. À cette date et qu'on le considérait à l'époque comme un second couteau. Même si c'était quelqu'un qui était de la même génération de Nasser, qui avait connu tous les épisodes, il avait été militaire, terroriste, Sainte, proche des frères musulmans. Puis ensuite, il avait envoyé des frères musulmans poteaux.
C'est lui qui a mené cette politique répressive à l'égard des frères musulmans pour Nasser.
Oui. Enfin bon, alors c'est un personnage d'un style très différent, très théâtral. On a dit souvent que Nasser était un joueur d'échecs et que Sadat était un joueur de poker. En tout cas, pour comparer leur style politique. En tout cas, il a eu un certain nombre d'intuitions politiques qu'on peut contester, mais qui existent et qui sont des choix politiques fondamentaux. Dans la pensée de Sadat, il faut que l'Égypte rebascule dans le camp occidental.
Il va orienter complètement la politique égyptienne vers une autre voie que celle de Nasser.
Alors oui et non, parce que la société égyptienne ne changera pas dans son essence sous l'époque sadatienne, même si on va adopter une forme de libéralisme économique.
Les héritages sont là.
Les 80% de l'économie reste étatisée, etc. Encore aujourd'hui, le secteur étatique est considérable dans l'économie égyptienne. Mais disons que c'est un choix pro-occidental qui va consister en quelque sorte, dans la pensée de Sadat en tout cas, de faire l'Égypte le rival d'Israël auprès des Occidentaux. Et dans la mesure où l'Égypte est le rival d'Israël auprès des Occidentaux, l'Égypte recueillera un certain nombre de dividendes, ne serait-ce que pour la libération de son propre territoire. Une fois que l'humiliation de 67 sera lavée dans les combats d'octobre 73. Alors, c'est une série de choix qui anticipent finalement ce que d'autres pays de la région feront. Bon, en même temps, la situation de l'Égypte des années 70 est très différente de celle des années 50. Sur le plan régional, maintenant, on est dans le cycle de la rente pétrolière. Les pays riches de la région ne sont plus l'Égypte, mais les monarchies pétrolières ou un pays comme l'Irak.
Et le pétrole fait son entrée aussi sur la scène du conflit israélo-arabe de façon spectaculaire en 73.
Donc l'Égypte pèse, entre guillemets, relativement moins sur la scène régionale. Son décrochage par rapport au conflit israélo-arabe, les accords cadres de Camp David, le traité de Washington, va conduire aussi à une crise politique intérieure forte du point de vue de l'identité égyptienne, puisque les pays arabes vont condamner et couper leurs relations avec l'Égypte, ce qui fait que Sadat va réinsister à la fois sur une dimension de l'identité égyptienne plus proprement égyptienne et non plus arabe. Il n'encouragera en particulier des discours assez violemment anti-palestiniens à la fin de ses années de pouvoir. Il y aura aussi un retour à l'islam qui sera encouragé par le gouvernement de Sadat pour lutter contre le poids déclinant de la gauche nassérienne dans les institutions et dans la société égyptienne. Et là aussi, il y aura un brouillage des identités et une crise morale tout à fait forte à la fin du gouvernement de Sadat. Alors bon, il aurait pu gouverner encore longtemps, mais comme vous savez, il a été assassiné dans les circonstances bien connues.
Oui. Avant d'en arriver à son assassinat, quelles sont quand même les, pouvez-vous rappeler les répercussions pour le monde arabe du traité de Washington israélo-égyptien, un traité de paix pour l'Égypte?
Il faut le considérer sur plusieurs plans. Le problème pour les Égyptiens était de pouvoir faire un traité de paix avec Israël qui ne soit pas une paix séparée. Et en même temps, ce qui intéressait les Israéliens, c'est que l'Égypte fasse une paix séparée. Donc les diplomates ont travaillé pour construire les phrases tout à fait ambiguës qui pouvaient donner toutes les lectures possibles. C'est leur métier. D'un côté, paix séparée, et surtout paix qui va créer un précédent fondamental à toutes les autres tentatives de paix jusqu'à aujourd'hui. L'Égypte revient sur les frontières du 4 juin 1967. Et quand les autres seront convertis à ce type de politique égyptienne, ils exigeront la même chose. Que ce soit les Syriens, que ce soit les Palestiniens, c'est les retours aux lignes du 4 juin 67 que les Égyptiens ont obtenu. D'autre part, le traité de Washington, dans son volet palestinien, propose une période intérimaire d'autonomie palestinienne, qui ne sera pas du tout appliquée, mais qui servira ensuite de base de réflexion pour les accords d'Oslo, qui en quelque sorte reprendront un certain nombre de formules du traité de Washington. Donc à l'époque, le traité de Washington a été extrêmement et lourdement condamné par les pays arabes voisins. Mais ensuite, le traité va servir de référence sur un certain nombre de points aux tentatives de paix, de négociation qui aura lieu entre Israël et ses autres États. Donc il y a une ambiguïté du traité, mais l'ambiguïté du traité est le propre justement d'une formule diplomatique par nature volontairement ambiguë.
Alors après l'assassinat de Sadat en 81, vous nous avez parlé de cet arabissement crise. Est-ce que les tensions communautaires en Égypte vont être ravivées ou plus soutenues à partir de ce moment-là?
Si vous voulez, il faut
s'il n'y a plus d'élan national, s'il n'y a plus d'unité au-delà de
ça, si vous voulez, il faut reprendre l'évolution de longue durée. Le régime nassérien est un régime populiste qui a beaucoup développé de services publics. Le travail a été continué par ses successeurs. Vous avez donc au début de votre période, un pays très largement analphabétisé. Et puis progressivement, dans toutes ces décennies, une progression continue de l'alphabétisation, etc. Si on regarde l'indice du développement humain, la progression est continue entre 1945 et nos jours. Il n'y a pas de retour en arrière. Le développement de l'Égypte, l'ouverture aux services sociaux est absolument conséquent. Et alors là, vous avez évidemment d'énormes ruptures culturelles. Et ces ruptures culturelles, elles peuvent se sentir, par exemple, par le fait qu'à la fin du XXe siècle, l'Égypte est d'une part un pays extrêmement jeune. Vous avez parlé d'un triplement, de même plus de la population en moins de 60 ans, presque un quadruplement. Ce qui se traduit par le fait que peut-être 40% de la population doit avoir moins de 15 ans. Et vous avez une phase tout à fait particulière où les jeunes générations sont alphabétisées, alors que les parents ne le sont pas. Et vous avez à ce moment-là une rupture de la communication culturelle entre les générations.
Entre les générations, quelles que soient les communautés religieuses.
Donc ça, c'est un premier point, mais qui est absolument essentiel. D'autre part, vous avez de façon continue l'apparition de médias de masse. À l'époque nassérienne, c'est la grande époque de la radio, c'est les transistors.
Oui.
Ensuite viendront dans les années 70 les appareils à cassette, la télévision. Aujourd'hui, l'Internet et surtout de très loin, les chaînes satellitaires arabes.
L'Égypte a une assez bonne liberté de la presse.
Restaurée sous Sadat, relative. Là, ces derniers temps, avec la crise du régime Moubarak, il y a eu une réouverture, au contraire, de la critique politique, mais c'est ces deux ou trois dernières années.
D'accord.
Mais surtout, si vous voulez, vous avez des changements culturels. Alors, on a parlé d'islamisation de la société. L'Égypte n'a jamais cessé d'être une société musulmane, même à l'époque nassérienne. Mais si vous voulez, à l'époque nassérienne, les élites, c'était des élites modernisatrices, un peu occidentalisantes, même si c'était un occidentalisme tiné de socialisme d'Europe de l'Est. C'était ça qui donnait la tonalité à la société, même si l'immense masse de la population restait musulmane et très traditionnaliste. Avec le développement nouveau de la culture, justement, l'islamisme, comme forme de lecture littérale de la religion, s'est développé. Et puis, ceux qui ont fait la révolution, ils étaient jeunes. Ils ont pris les postes de commande. Les autres qui suivent, ils ne bénéficient pas du même appel d'air. Comme on dit en France, l'ascenseur social se trouve bloqué. Vous avez ces masses de jeunes qui n'ont pas de job, qui n'ont rien à faire. L'islamisme peut leur paraître une solution. Alors, ça va être assez dramatique, c'est surtout sur l'époque contemporaine. C'est-à-dire, nous venons justement de célébrer le 25e anniversaire de l'accession d'Hosni Moubarak
au pouvoir.
Que l'on sent cela, c'est-à-dire que l'Égypte avait jadis une haute culture à l'époque monarchique qui s'était continuée encore sous le régime nassérien, avec une grande ouverture sur le monde extérieur, mais qui ne touchait évidemment qu'une petite minorité de la population. Là, vous avez brusquement une islamisation au sens islamique, dure, puritaine, stricte.
De masse ?
De masse. Et en même temps, vous avez de nouveaux groupes sociaux, vous avez des promotions sociales, des classes entières qui nouvelles, de petites bourgeoisies, etc., qui accèdent à un certain nombre de postes. Alors, le résultat, ça va être un étouffement de la culture égyptienne. Parce que, par exemple, le régime de Moubarak a cédé à l'université religieuse d'Al-Azhar le contrôle sur les imprimés. Donc, vous allez avoir des multitudes de procès, d'attaques, d'interdiction de livres. Certains livres de Naguib Mahfouz, le prix Nobel de littérature, se sont trouvés interdits en Égypte à la demande des religieux. Ils ont même, à un moment, exigé l'interdiction des mille et une nuits. Donc, vous avez un étouffement de la culture égyptienne. Et ça, évidemment, c'est un élément absolument dramatique. Jusqu'à ces deux ou trois dernières années, il y avait vraiment une impression, quand on était en Égypte, d'enfermement culturel, mais qui était venu de la base de la société. Ce n'était pas le pouvoir
qui l'imposait.
C'était la base de la société.
Alors,
depuis deux ou trois ans, il y a une rupture dans ce domaine. Mais pour prendre un simple exemple, l'islamologue français Maxime Rodinson, qui est disparu récemment, est venu en Égypte à la fin des années 60 à l'invitation du gouvernement de Gamal Abdel Nasser.
Oui.
Et il a été reçu, entre autres, par les chaires de l'université d'Al-Azhar. Il a fait des conférences à Al-Azhar.
Al-Azhar même.
Même. 30 ans après, ses livres étaient interdits en Égypte. Il était posé par Al-Azhar comme un ennemi de l'islam.
Oui. Hein,
vous voyez la décadence culturelle de l'Égypte de la fin du XXe siècle. Alors, par ailleurs, vous avez évidemment d'immenses transformations économiques et sociales. Prenez par exemple le développement du tourisme. Tant que l'Égypte était en guerre, il n'y avait plus de tourisme. Bon, l'Égypte, après 73, s'est rouvert au tourisme. Bon, vous avez le tourisme, entre guillemets, traditionnel, pharaonique, qui continue, les pyramides, Luxor, etc., à soi. Mais vous avez un nouveau tourisme qui se développe avec une extrême vitesse, en particulier sur la mer Rouge, qui est un tourisme balnéaire. Et par exemple, la péninsule du Sinaï que l'Égypte avait perdue pendant un certain nombre d'années est devenue maintenant un centre mondialement connu.
Sharm el-Sheikh,
qui était un point chaud du monde, est devenu aujourd'hui une station balnéaire. Et on oublie que dans les années 60, Sharm el-Sheikh était un point politique absolument grave. Mais en même temps, ça veut dire que vous avez de nouvelles zones du pays qui se développent. Le Sinaï, le tourisme. Pour un pays comme l'Égypte.
On n'est plus sur la ligne droite du Nil, on s'en écarte.
On est sur la mer Rouge, au Gada,
etc. Toute son ampleur.
Mais le tourisme aussi, c'est à la fois une industrie intéressante parce que ça procure des devises et parce que ça utilise énormément de main-d'œuvre. Et en même temps, pour un régime politique, ça implique de la stabilité. Donc, les millions de familles qui dépendent de la vie du tourisme ont besoin de la stabilité politique.
La prospérité allant avec cette stabilité.
Voilà, enfin, leur gagne-vie, leur gagne-pain, tout simplement.
Ouais.
Donc ça, c'est par exemple une forme de développement de l'Égypte. L'Égypte est devenue aussi un pays d'émigration. Avant, les Égyptiens bougeaient peu. Alors, avec l'époque de l'économie pétrolière, c'est-à-dire à partir des années 70, les Égyptiens ont beaucoup migré vers les pays du Golfe.
Les hommes partaient travailler dans les monarchies du Golfe.
Ou en Irak,
ou en
Jordanie.
Et pendant les guerres aussi.
Du coup, d'ailleurs, l'Égypte a perdu beaucoup de sa main-d'œuvre de haute capacité, puisqu'ils étaient payés 10 fois plus ou 15 fois plus en Arabie Saoudite, etc. Et une des causes de l'islamisation était le retour de gens d'Arabie Saoudite. Ils avaient bien été endoctrinés par les idées qui ne correspondaient pas aux pratiques religieuses habituelles de la société égyptienne. Vous avez les Coptes. Les Coptes se sont sentis, surtout à partir de l'époque de Sadat, victimes de l'évolution de la société et de l'islamisation. Vous avez périodiquement des violences communautaires, soit au Caire, Alexandrie, soit dans la vallée du Nil. Mais vous avez une immigration copte maintenant vers l'Amérique du Nord, en particulier vers les États-Unis. Récente, ces 20 ou 30 dernières années. Et ces coptes d'Amérique du Nord, maintenant qu'ils sont en Amérique du Nord, contestent la politique égyptienne en disant que les coptes sont persécutés et font pression sur le gouvernement des États-Unis, etc. Bon, sachant. Vous avez maintenant une immigration égyptienne de plus en plus importante vers l'Europe. Ça, c'est tout à fait récent. C'est les 10 dernières années. Elle est silencieuse. Vous avez beaucoup de travailleurs immigrés égyptiens en France à l'heure actuelle. On n'en parle pas. Souvent des sans-papiers, certainement. Je dirais en caricaturant que beaucoup des pizzerias parisiennes aujourd'hui sont faites avec des ouvriers égyptiens.
Oui.
Où vous avez des peintres en bâtiment qui sont des égyptiens. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce que quand on allait travailler dans les pays du Golfe, on en revenait. Tandis que là, c'est autre chose qui se produit quand on émigre vers l'Europe ou vers l'Amérique du Nord, on ne revient pas nécessairement.
Ce sont des départs définitifs, probablement.
Les gens n'ont pas l'impression de partir définitivement, mais on sait très bien qu'une part, en tout cas, de cette émigration-là, en particulier celle vers l'Amérique du Nord, ne reviendra pas. Alors, le régime lui-même, il est théoriquement pluraliste dans la mesure où il accepte une opposition politique officielle, avec des partis politiques reconnus comme légitime. Les frères musulmans ont toujours été interdits et périodiquement persécutés. Mais enfin, vous avez plusieurs partis politiques autorisés. Les élections, elles donnent des résultats complexes. Alors là, on est dans un des paradoxes arabes qu'on retrouve ailleurs, mais qui ne sont pas bien visibles en Égypte. Les élections politiques n'ont pas de signification politique.
Y compris la dernière ?
En général, oui, je m'explique.
Parce que...
En Égypte, les élections servent à la cooptation du pouvoir. Vous avez plusieurs candidats, y compris à l'intérieur du parti dominant, dans les circonscriptions électorales. En fait, celui qui remporte, c'est le boss du quartier. Si dans une zone ville, ou c'est le boss de la campagne. Et comme il a démontré qu'il est le boss puisqu'il a gagné les élections, éventuellement en les truquant, en faisant de la pression, si vous voulez, à ce moment-là, le parti au pouvoir le coopte. Donc, il n'y a pas de programme politique. C'est un instrument de recrutement. Et c'est très intéressant parce que jusque-là, on avait un pouvoir venu d'en haut qui s'imposait vers le bas. Tandis que là, ce sont les notabilités locales qui montent vers le pouvoir d'en haut. Mais ça ne donne pas de véritable signification aux élections. Là où il y a des luttes programmatiques, des débats idéologiques, ce ne sont pas dans les élections politiques, c'est dans les élections syndicales. Dans les ordres d'avocats, dans les ordres de médecins, dans les ordres d'ingénieurs. Alors là, vous avez nassériens, islamistes, libéraux qui s'opposent avec violence. Mais on retrouve ça dans d'autres pays arabes, mais c'est particulièrement caricatural. Alors, depuis 2 ou 3 ans, surtout depuis l'année dernière, il y a des changements politiques forts. Égyptienne, c'est une pyramide tronquée. Chaque année, il y a moins d'enfants. Ça veut dire que si aujourd'hui, peut-être 40% de la population, ou 35% maintenant de la population doit avoir moins de 15 ans, ça voudra dire que dans 30 ans, 50% de la population aura plus de 60 ans. C'est-à-dire que la société égyptienne du 21e siècle va connaître le même problème que nos sociétés européennes, mais de façon considérablement amplifiée, parce qu'ils vont basculer...
Comme les pays du Sud, en fait.
Oui. Ils vont basculer dans le vieillissement, mais à une vitesse beaucoup plus rapide que les pays de l'Ouest européen, ou en tout cas comme un pays comme l'Europe. Et ils sont absolument pas préparés à ça. C'est là où on peut avoir des inquiétudes.
Bon. Pour conclure, Henri Laurence, depuis que vous vous intéressez à l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, quel regard portez-vous sur l'évolution de cette discipline ?
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut attendre par ça. Vous savez, en France, spécialiste d'histoire contemporaine du monde arabe, on a moins d'une dizaine en poste titulaire dans l'enseignement supérieur et dans les institutions de recherche français. Donc, ma discipline, elle existe certainement, mais nous sommes très peu nombreux par rapport aux spécialistes de la Troisième République ou de la Révolution française ou d'autres sujets. Donc, parler de l'évolution de ma discipline sur le plan français...
Ça concerne trop peu de monde.
Trop peu de monde, surtout que sur l'Égypte contemporaine, c'est plutôt sociologue, anthropologue, sciences politistes, qui travaillent.
Qui font des études sur ces sociétés.
C'était que les historiens.
Les historiens sont extrêmement minoritaires.
Nous sommes les meilleurs par définition, mais nous sommes en tout cas très minoritaires. Et de toute façon, nous travaillons de façon pluridisciplinaire, ce qui est beaucoup plus facile sur ces domaines-là, puisqu'on se connaît tous et qu'on fréquente les mêmes institutions de recherche. Moi, je dis de toute façon que à la fois l'intérêt. Du travail que je fais, entre guillemets, sa facilité, c'est qu'un historien du monde arabe, pour l'époque contemporaine au sens large du terme, c'est-à-dire, disons, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, ça correspond à peu près à ce qu'était un explorateur européen en Afrique au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, là, il y a des montagnes. Tiens, là, il y a un lac. Là, il y a une grosse forêt. Alors, on peut mettre un nom au lac, à la forêt, etc. Je veux dire. Donc, on peut traiter de grands ensembles, on peut faire des échantillons et à partir d'échantillons, extrapoler. Enfin, nous n'avons pas du tout la densité d'études historiques qui existent pour les sujets d'histoire européenne, je veux dire. Qu'est-ce que nous sommes par rapport aux centaines d'historiens qui ont travaillé sur les 10 pauvres années de la Révolution française, où là, on a examiné toutes les biographies de tous les individus possibles, on a fait des monographies pour tous les sous-groupes de 250 personnes dans les sections...
un grand travail de déchiffrement.
épuisé de collecte d'informations. Enfin, c'est vous dire, nous, les historiens du monde arabe, nous arrivons à peu près à distinguer de grosses masses. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus plaisant de pouvoir découvrir des grands lacs ou des grandes forêts que de travailler sur des micro-sujets comme on le fait en histoire européenne. Je veux dire, la micro-histoire, c'est bien gentil, mais on peut faire de la micro-histoire quand on a 10 générations précédentes qui ont travaillé sur les sujets globaux, hein.
Henri Laurence, vous travaillez en ce moment sur le corpus des textes nassériens entre 1954 et 1961. Vous venez de traduire ces dernières semaines 2000 pages d'Aramb. Quelles sont vos dernières découvertes et réflexions ?
Il n'y a pas de découverte, c'est un travail sur le texte.
Oui, bien sûr.
Ça permet de voir l'émergence de vocabulaire, l'apparition, la disparition de termes, les glissements sémantiques, etc.
Oui,
ce qui, à ma connaissance, n'avait jamais été fait.
Sur l'ensemble, comme ça
Du corpus nassérien. Oui. Bon, il y a eu des études qui ont été faites, mais elles ont démontré, que, comme c'était des études à base linguistique, elles ont pris le discours nassérien dans sa globalité. Et ils ont retrouvé que Nasser était un nationaliste arabe.
Bon, ce qu'on tu savais.
Ce qu'on savait. Tandis que, par exemple, moi, je m'intéresse de savoir quand il dit pour la première fois libération de la Palestine.
Ouais.
Quand il change de dire, dans les années 50, il dit arabe de Palestine.
Ouais.
Autour des années 60, de 1960, il dit le peuple de Palestine.
Ouais.
Et puis voir le moment où il va dire peuple palestinien. Bon,
c'est ça
le travail de l'historien.
Alors Henri Laurence, il me reste à vous remercier de votre venue et continuer à écrire de grandes synthèses sur l'histoire du Moyen-Orient.
Je vous remercie.